Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc, nous voici avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Nous sommes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM tous les vendredis à partir de 10h. Donc, à partir de nos expériences et de l'envie d'une population de victimes, nous avons décidé de dénoncer les injustices, notamment les abus de pouvoir. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante dès le départ de notre émission, que la société civile qui est représentée par vous, mes chères auditrices, chers auditeurs, représente le seul contrepoids réel face à l'agissement de l'État qui n'est pas toujours approprié avec le vécu de la population. Donc, la justice et l'égalité entre les citoyens est le fondement même de cette société. Voilà pourquoi la distance qui nous sépare de ce rêve nous oblige à multiplier nos efforts et ensemble nous arriverons définitivement à s'approcher de ce but qui semble présentement inaccessible. Et vous voyez aussi que être découragé par la complexité de notre système à réaliser un semblant de justice et d'égalité entre les citoyens n'est pas la solution souhaitée dans ce combat de tous les jours, mais plutôt il faut garder le cap fermement vers les rivages de nos objectifs hautement légitimes. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, donc un mouvement de défense des droits de la personne face au système judiciaire. L'escalade de l'injustice dans cette société nous inquiète et nous faisons notre part pleinement. Et vous, êtes-vous conscient de l'enjeu? Appelez-nous au 514-273-4302. Ou plutôt, vous pouvez toujours nous écrire à info@commercialmaj-quebec.com. Vos opinions, vos conseils, votre témoignage reste ce qu'on a le plus cher pour enrichir cette émission qui demeure toujours la vôtre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question de la semaine de l'action contre le racisme, une semaine devenue un moment privilégié ici au Québec depuis mars 2000, grâce aux efforts de citoyens bénévoles. Et on va, j'attends aussi toujours des invités de temps à l'autre. On va discuter de ce sujet aujourd'hui ensemble. Restez à l'écoute, nous allons revenir avec vous après notre émission, après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme Jim qui a payé sa dette. 20 ans de prison mérité reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un paf obscène est à la une.
Bon, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Comme vous le savez peut-être, sûrement, le 21 mars est une journée internationale décrétée par les Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc, ce qui a fait qu'ici, au Québec, depuis l'an 2000, un groupe de citoyens et d'organismes bénévoles ont décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine d'action contre le racisme. Donc, une semaine qui dure généralement du 20 au 26 mars cette année, elle est tenue du 21 au 25 mars. Donc, au fur et à mesure du temps, cet événement est devenu forcément un moment privilégié de réflexion, d'échange et, comme le disait bien le site organisateur, un rapprochement interculturel. Donc, c'est une semaine adressée au grand public et plus particulièrement aux jeunes pour souligner l'importance de conserver un tel événement dans une société comme la nôtre qui est basée sur la diversité ethno-culturelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi, la diversité ethno-culturelle? Dans notre propos, c'est réellement celui de vivre ensemble et profiter de la richesse de l'autre. Et je peux vous assurer une seule chose, c'est que chacun de nous, quelle que soit sa valeur, il est ici, sur cette putain de terre, pour contribuer à son équilibre, sans oublier que l'individu lui-même demeure un message mystérieux à décoder. Autrement dit, si vous minimisez la valeur de l'autre, quelle que soit cette valeur, c'est parce que vous êtes un imbécile qui n'a rien compris à la vie. Et si vous pensez que vous êtes mieux que l'autre, alors là, vous êtes encore plus qu'un imbécile. Donc voilà, si certaines conditions de vie se sont réunies pour mettre quelqu'un sur une voie qui n'est pas la même que la vôtre, ou plutôt un destin peut-être non choisi, ça n'empêche pas qu'au fond des choses, nous sommes tous égaux. Sur toute la ligne, mes chères auditrices, chers auditeurs, nous avons tous un point de départ commun et une fin commune. Le reste, c'est un paquet d'illusions et des temps de merde. Donc, réfléchis deux fois avant de rapetisser l'autre. Revenons donc à la semaine de l'action contre le racisme qui se déroule présentement ici à Montréal, et voir aussi au second lieu l'inaction et la froideur de notre gouvernement vis-à-vis à cette question. Donc il faut souligner que cet événement vient confirmer d'abord l'existence du racisme dans notre société, alors que certains politiciens lourdement ivres d'hypocrisie déclarent le contraire. Et justement, c'est ce que nous amène à comprendre pourquoi le gouvernement du Québec ne se préoccupe guère de cette situation, un enjeu de société majeur. Pourquoi des citoyens bénévoles prendre cette initiative en main et passe à l'action de la sensibilisation populaire, pour le moins alors que les institutions gouvernementales mises sur pied pour combattre ce fléau, telles la Commission des droits de la personne ou la déontologie policière et d'autres, sont en difficulté de fonctionnement permanente. Quand je dis difficulté, ça veut dire que l'État, visiblement, est en position de faiblesse. Elle perd le contrôle de plus en plus et la machine Hopper à la vaguelette. Voilà qui explique malheureusement qu'un groupe de citoyens et d'organismes bénévoles ont décidé d'agir devant un problème de société de taille qui gangrène la société québécoise de l'intérieur. L'État peut faire énormément de choses afin de diminuer et considérablement l'impact du racisme, de la xénophobie, des préjugés et des intolérances et de la discrimination raciale. Le programme de l'éducation dans les écoles est un lieu privilégié, par exemple. Les débats télévisés constamment mettent les gens dans des positions de réflexion, les discussions du groupe et des ateliers et d'autres. Retourner aussi vers les institutions concernées de l'État et voir avec la participation de la société civile comment améliorer le fonctionnement de ces institutions-là. L'État peut faire beaucoup de choses, mais à condition qu'elle soit consciente de l'ampleur du problème. Aujourd'hui, elle a le contrôle d'une manière ou d'une autre, mais à défaut, demain les choses vont-ils changer? Avant de discuter avec mes invités d'aujourd'hui, j'ai devant moi Dominique et Marissa. Avant de discuter avec mes invités, j'aimerais vous faire entendre l'entretien que j'ai eu avec Madame Régine Alandre Chombo-Congo, c'est ça son nom, oui. Écoutez, elle est directrice générale et fondatrice du Centre de l'encadrement pour les jeunes femmes immigrantes, une femme qui fait beaucoup, mais surtout elle porte le problème dans son cœur et je vous invite à écouter attentivement son témoignage. Voilà.
Oui.
J'écoute, madame.
Mais la semaine d'action contre le racisme, c'est une bonne initiative.
Voilà.
Oui, parce que, quelle que soit la société, le racisme existe toujours.
Donc, vous le confirmez que dans notre société québécoise, le racisme existe.
Le racisme existe.
Oui.
Ça existe, même si ça existe d'une façon subtile,
oui.
Même si les gens prennent de plus en plus de précautions pour qu'on ne donne pas l'impression que c'est le racisme, mais ça existe.
Oui, oui.
Alors, ça existe de façon que...
Comment vous le confirmez que ça existe?
Moi, je le confirme parce que...
Vous l'avez vécu personnellement ou c'est le milieu où vous travaillez qui vous traduit ça?
Oui, alors je peux dire oui ou et non parce que d'abord, je suis impliquée dans plusieurs instances.
Oui.
Oui, dans le mouvement des femmes, je suis très, très impliquée. Et je suis aussi membre du conseil interculturel. Dans les écoles, j'ai fait présidente de conseil d'établissement pendant longtemps.
Oui.
Alors, avec mon implication dans le communautaire, c'est d'après mes expériences que je confirme.
Vous pouvez se prononcer facilement.
Oui, je peux me prononcer facilement.
Oui.
Mais parce que je m'occupe de jeunes filles,
oui.
Qui sont l'avenir de demain.
Oui.
Et je n'insiste pas tellement sur le racisme quand nous intervenons.
Oui.
Nous disons tout simplement que ça existe, mais nous faisons tout pour dépasser, pour pouvoir arriver à l'intégration de ces jeunes femmes.
Oui.
Alors, mais il y a des cas qui nous sont reportés qui handicape notre travail d'accompagnement individualisé et d'accompagnement collectif de ces femmes.
À quel niveau?
Oui, à quel niveau? Par exemple, le niveau de l'emploi. Parce que nous faisons en sorte d'outiller ces filles, de développer leurs compétences et d'accélérer leur intégration dans le milieu de travail, dans le milieu des études, soit à l'école, soit au travail.
Et la difficulté, elle est où?
La difficulté, elle est où? Je peux partir au niveau des chiffres, par exemple.
Oui.
Alors, nous avons 51% de nos participantes aux activités qui sont des universitaires.
Oui.
Oui. Et nous avons...
C'est des nouveaux arrivés ou c'est...
Oui, nouveaux arrivés de 0 à 5 ans et même
oui.
plus. Et nous avons 76% de ces filles qui sont sans emploi.
76%.
Oui, 76%
ils n'arrivent pas à obtenir un travail au Québec ici.
Oui, 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 malgré les efforts que nous faisons.
Est-ce qu'ils ont la compétence? C'était des ressources compétentes?
Oui, oui, ils ont la compétence. Quand je parle de diplôme universitaire, ils ont des diplômes et puis nous, nous travaillons avec elles pour pouvoir les outiller, leur donner des outils nécessaires pour s'impliquer dans le, s'intégrer dans le milieu de travail. Il y a un pourcentage minime qui parviennent par exemple à attraper de, à décrocher un emploi, mais pas nécessairement. L'année passée, on était à 76. Il y a 3 ans, c'était 45% sans emploi.
Et, il y a un effort quand même.
Oui, oui, oui. Deuxième, l'autre année, c'était 76%. Et l'année 2010, c'était 76%. On n'a pas avancé. Alors, oui.
Mais ça veut dire que ce n'est pas une question de non-compétence. Les gens sont compétents et même au-delà de tout. Mais quelle est la barrière, justement? Est-ce que c'est la couleur? C'est quoi? C'est l'origine?
Il y a des barrières d'ordre intrinsèque de la personne elle-même. Peut-être elle ne maîtrise pas la langue. Alors, peut-être il y a une adéquation entre son diplôme et les diplômes d'ici. Alors, peut-être il y a des barrières culturelles. Ça, c'est d'ordre intrinsèque. Mais il y a des barrières d'ordre extrinsèque.
C'est ça, exactement.
Oui, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle d'abord la discrimination systémique. Alors, manque de reconnaissance et tout ça, des acquis. Alors, c'est systémique. Mais moi, si je peux aller de par cas, par exemple.
Si vous prenez l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a suivi tout ce qu'il faut, il a les outils qu'il faut, il est prêt pour aller sur le marché du travail, et il reste des années sans emploi.
Oui, je vais parler de ce cas-là. Et je vais commencer même au niveau beaucoup plus bas. Alors, par exemple, il y a un projet égalité des chances en sciences et techniques. Alors, nous commençons à intervenir auprès, parce que nous, notre clientèle, c'est de 12 ans, 35 ans. Alors, nous prenons des filles de 14 à 17 ans pour faire la visite dans une entreprise en place. Alors, pour pouvoir s'initier déjà au métier non traditionnel et pour qu'elles puissent s'orienter à l'université au métier non traditionnel. Peut-être dans ce domaine-là, elles peuvent, parce que c'est un domaine qui est en demande de la main-d'œuvre, elles peuvent se préparer déjà un chemin pour décrocher un emploi. Alors, on se fait demander la liste de visiteuses, de participantes. On envoie la liste et puis on se fait dire que on a refusé la visite, malheureusement, parce que sur la liste, la plupart des noms sont des noms arabes. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas. Ce sont des enfants de 14 à 17 ans.
Ça, vous avez fait la demande et ici au Québec, vous avez reçu la réponse comme
Oui.
Parce qu'ils ont une origine arabe, on ne les accepte pas.
On n'accepte pas d'origine arabe. C'est ça.
Avez-vous adressé une lettre au gouvernement? Quelles sont les démarches après une telle réponse? Quelles sont les démarches de votre part? C'est inquiétant, hein? Vous êtes d'accord avec moi?
C'est inquiétant. Malheureusement, nous, ce genre de choses, on les dénonce pendant la journée des filles immigrantes et des colloques qu'on organise annuellement. Mais c'était un choc pour les filles.
Mais c'est triste.
C'était un choc. Alors, mais nous continuons notre travail d'encourager, parce qu'on se base sur les compétences que ces filles ont. Les filles que nous accadons sont des filles qui ont des compétences, qui ont le souci de s'impliquer, parce qu'elles ont quitté avec un espoir de pouvoir s'impliquer au Québec, et puis ce sont des jeunes. Alors, mais elles se débrouillent, elles ont le souci. Moi, je ne crois pas à ces historiettes-là des immigrants, immigrantes qui sont paresseuses, qui ne font rien.
C'est pas la vérité.
Mais c'est pas la vérité. Parce que moi, même s'il y a la tempête, vous avez vu tant de filles qui sont là,
même s'il y a la tempête
de neige,
ils se déplacent.
Elles se déplacent même avec des bébés pour venir suivre la formation qui va améliorer plus tard leur situation.
C'est une grande volonté qui s'écrase devant la réalité.
Une grande volonté, car elle fait ces efforts-là et arrivé à un certain moment, il y a un freinage, il y a une barrière et ne peuvent pas avancer.
Moi, ça me déboussole complètement. Est-ce que pensez-vous, à votre avis, vous vous. Est-ce que le gouvernement est conscient de cette problématique?
Mais le gouvernement est conscient de ces problématiques. La discrimination systémique, le gouvernement est conscient de ça. Oui. Reconnaissance des acquis, reconnaissance des diplômes, des métiers. Le gouvernement est conscient.
Mais vous êtes d'accord que le gouvernement ne fait rien pour ça?
Mais le gouvernement, supposément, il peut faire quelque chose. Mais
exactement.
C'est but devant, comme l'ordre des médecins et tout,
oui.
Hein, qui selon lui, c'est beaucoup plus fort que lui, oui. Parce que l'ordre des médecins ne veulent pas accepter de nouveaux médecins, oui. Et le gouvernement ne sait rien faire.
C'est un exemple sur son. Oui. Oui, oui.
Alors, c'est ça, c'est comme une balle qu'on se jette d'un côté sur l'autre, et puis et c'est dans un cercle vicieux, et ça va continuer ainsi. Alors, ce qui se passe maintenant dans la société québécoise, c'est qu'on est en train comme nier l'existence du racisme.
Exactement.
Oui, dit, mais ça n'existe pas, oui. Et c'est la faute aux immigrants et tout, et ce n'est pas... Mais on ne peut pas nier...
On joue la truche.
L'existence. Je peux vous donner quelques exemples à nouveau. Alors, je ne peux pas citer les noms.
Non, c'est pas grave, mais on veut voir.
Il y a Noura, qui est architecte, et je vais dire Asma, qui est physicienne atomique,
oui, oui.
Alors qui parle parfaitement les deux langues,
oui.
D'emploi, français et anglais,
oui.
Et qui décroche très souvent l'entrevue en embauche. Parce que ce que nous faisons ici,
oui.
Nous travaillons sur le développement communicationnel.
Mm-hmm.
Alors, nous avons un espace radio centre-ville. Il y a des journalistes qui viennent ici, mm-hmm. Alors, pour travailler, pour donner des ateliers aux filles, pour améliorer le côté communicationnel. Parce qu'avant, les filles ne savaient pas se vendre. Mais avec ces activités, la première chose, c'est développer les compétences communicationnelles. Mm-hmm. Alors, avec ça, c'est très facile qu'elles attrapent une entrevue d'embauche.
Oui.
Mais dès qu'elles arrivent là-bas, je parle d'Asma et de Noura.
Oui,
à chaque fois,
oui.
Elles arrivent là et puis elles lisent même les effets surprises sur le visage des intervieweurs qui ne croyaient pas voir une femme avec un foulard,
oui.
Celle qui a parlé avec elle au téléphone, c'est pas celle qui se présente.
Non, oui, oui. Il y a un rejet automatique.
Automatique, oui. Automatiquement, on rejette.
Et
elle, oui, oui. Elle rentre, mais on ne le dit pas. On ne dit pas, on va vous appeler, tout ça. Et l'entrevue, des fois, se transforme en une entrevue de questions familiales. Est-ce que vous êtes marié?
Oui, oui.
Qu'est-ce que votre mari fait? Pour qu'est-ce que vous avez quitté votre pays?
Oui, oui,
oui, oui, c'est ça. Oui. Alors maintenant, Asma se renferme chez elle. Elle
oui.
ne sort plus,
oui.
Elle avait, malgré son diplôme d'architecte, et puis malgré tout le travail que nous avons fait. Alors maintenant, Noura...
Découragée.
Oui. Et Noura se réoriente. Elle fait maintenant l'imagistique médicale,
oui.
Au lieu de physique atomique. Alors, elle continue. Parce que découragée, oui. Par ce fait qui n'est pas facilement décelable, qui n'est pas facilement saisissable.
Oui.
Des attitudes subtiles.
C'est malheureux.
Alors oui, c'est ça, ça rentre
c'est
toujours
oui.
Dans la discrimination.
Mais on parle aussi, madame, moi je vois vraiment mmh. Votre motivation et tout. Mmh. Je veux savoir aussi, on parle aussi, j'ai déjà posé la question à une autre collègue, la diversité. Hein. On cherche
oui.
Ici la diversité, c'est une société
oui.
De diversité hein,
oui.
et le racisme en même temps. Comment pensez-vous que, quel message que vous pouvez envoyer au gouvernement aujourd'hui pour qu'il puisse réagir, qu'il puisse bouger un petit peu là, parce que ça devient de plus en plus un petit peu problématique, quoi.
Oui, parce que pour moi, je dis, mais le Québec et le Canada, c'est un pays chanceux.
Ben
le
oui,
Québec aussi, parce que la diversité, c'est une richesse.
C'est une grande richesse.
Oui, une richesse. Quand on se retrouve ensemble, on s'échange. Il y a de différentes expériences, de différents diplômes, de différents niveaux.
Ouais.
Alors, mais c'est une occasion en or pour la société de saisir cette diversité. Pour le développement,
ben,
l'avancement de la société.
Ouais.
Alors, mais
il y a
des barrières qui font, il y a des lois d'accès à l'égalité en emploi
ouais.
Qui existent, mais il n'y a rien qui est fait.
Ouais.
Même au conseil interculturel, là où je siège,
ouais.
Où est-ce que nous avons, on sait que la loi d'accès à l'égalité a échoué.
Ouais.
Nous avons fait même une recherche action là-dessus
ouais.
Pour voir pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des jeunes femmes à l'hôtel à la fonction publique municipale. Oui. Alors, on a rencontré les responsables des ressources humaines. Oui. Mais ça n'avance pas du tout. Il y a des emplois temporels, comme emploi d'été et tout. Oui. Et tout ça, ça gonfle les statistiques oui. pour montrer que la diversité y est.
Madame, vous avez peut-être pas répondu directement à ma question. Oui. Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui de faire? Mais j'aimerais bien maintenant, comme une dernière question, qu'est-ce que vous disiez à ces victimes-là, oui. ces filles victimes qui sont découragées, oui. qui ne peuvent plus et qui sont devant la réalité malheureuse, oui. ils se sont écrasés. Avez-vous un message d'espoir aujourd'hui à dire à ces filles-là?
Mais moi, d'abord, pour le gouvernement, oui. on le fait. On continue à faire de notre façon, comme je dis, oui, dans nos rencontres et quand on se retrouve dans nos mémoires. Oui. Et je ne suis pas la seule et tous les immigrants le font. Oui. Mais on espère qu'un jour, il y aura un changement ici. Mais pour les filles, ce oui. que je dis aux filles, ce n'est qu'une barrière qui oui. est surmontable. Oui. Et nous devons accompagner chacune d'entre elles. Et on est arrivé à des résultats. Là où il y a des refus, nous sommes là. Oui. Et puis nous posons des oui. questions, nous parlons avec ces responsables. Et des fois, il y a des changements. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un organisme qui est derrière tout ça. Oui. Il y a, par exemple, il y a une fille roumaine qui a été pour se faire inscrire à une université de place ici. Et on l'a fait dire, mais des Roumains sont des paresseux. Ah, et oui. madame, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous inscrire. Parce que, alors, mais moi, j'ai appelé la dame. Oui. Qui a changé d'avis. Ah, oui. Alors il faut déjà ça.
Je suis vraiment en train de oui. dire que heureusement oui. votre organisme il existe au moins. Oui. Et on oui. aimerait bien avoir chaque quartier un organisme oui. comme le vôtre. Oui. Mais quel dernier mot vous disiez aujourd'hui, je disais bien, aux victimes, à ces gens-là qui sont découragés devant ce système-là?
Mais moi je dis toujours aux victimes que nous sommes venus dans ce pays et nous avons les mêmes droits oui. que tous les Québécois. Nous sommes des Québécois et des Québécoises. Vraiment, oui. Alors mais nous devons nous préparer et oui. nous-mêmes, nous armés de courage pour pouvoir arracher la place qui nous est due dans ce pays. Il n'y a pas de différence entre moi qui vient d'arriver d'Afrique et une Québécoise qui est née ici. Ouais, ouais. Nous sommes tous des Québécois et la société a besoin de mes efforts, de ma contribution, au même titre qu'elle a besoin de la contribution de celle ou de celui qui est né ici.
Ben, écoutez, madame, je te remercie énormément et pour tout cette... moi, je vous lance vraiment, je vous souhaite un bon courage et tout ce que vous faisiez pour la communauté, surtout pour le sexe féminin, très sensible aussi. Et de ma part, un grand merci.
Oui, je vous remercie.
Donc voilà, donc après ce témoignage accablant, nous allons prendre une pause musicale et on va revenir avec nos invités d'aujourd'hui.
Contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail.
Ces 10 dernières années ont été riches en émotions. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif allant jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. C'est confidentiel.
C'est toujours mieux de vérifier. Juste pour être sûr. Sûr.
Faites valoir tous vos droits avant le 30 mai 2011. Un message de la Commission de l'équité salariale.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Radio Centre-Ville vous fait des offres alléchantes sur sa page Facebook. Misez sur un prix qui vous intéresse et économisez. Les fonds amassés servent au financement de votre radio à but non lucratif. Recherchez la page Facebook de Radio Centre-Ville et partagez la nouvelle avec vos amis.
Depuis 35 ans, nous donnons le micro aux Montréalais et Montréalaises afin qu'ils se rencontrent. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour mes chères auditrices, chers auditeurs. J'aimerais d'abord vous présenter mes invités d'aujourd'hui. Donc j'ai deux charmantes femmes devant moi qui viennent du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Ils sont des militantes aussi. J'ai Dominique Abana, donc elle est... vous avez suivi, je pense, des cours en sciences politiques, hein, sciences politiques d'Université à Montréal.
Oui.
Et j'ai aussi avec moi Martisa Guyenne, c'est ça ? J'ai bien prononcé, merci. Et elle est sociologue et elle a suivi aussi, elle a fini une maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. En face de moi aussi, j'ai Nadia, elle a un bac en communication et sciences politiques. Et sciences et langues. Hein.
Langue française.
Voilà, merci à tout le monde et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que chacun parmi vous, mes chères dames, a son propre parcours dans cette course à la découverte de la société d'accueil. Peut-être pouvez-vous nous dire le regard que vous portez avant d'arriver au Québec et celui d'après. Je commencerai par exemple avec Martisa.
Maritza.
Vas-y Maritza. Moi j'ai de la difficulté avec... Non, vas-y.
Oui, des fois avec les noms d'origine latino-américaine, oui, je sais.
Mais là c'est Maritza, non?
Oui.
Ah, vas-y.
Bien, c'est vrai que dans les imaginaires collectifs...
Oui. Avant d'arriver ici, vous êtes ici depuis 5 ans, je pense.
Oui.
Depuis 5 ans. Donc, j'aimerais bien voir quel est le regard que vous avez avant de venir. Et peut-être après, vous me disiez lequel aujourd'hui.
Ok, d'accord, bien. Parce que ce que je voulais vous dire, oui, effectivement, c'est que dans les imaginaires collectifs que nous avons à l'Amérique latine, au sujet de l'Amérique du Nord, disons qu'on pense toujours à la qualité de vie.
Oui.
Surtout quand on pense au Canada et à Québec, disons, c'est ça qui est le plus attirant. Le fait de pouvoir avoir accès à une qualité de vie qui soit vraiment, porteuse de bonheur, porteuse de bonnes conditions de vie, porteuse de l'accès à tous les services sociaux, l'éducation, la santé, tout ça.
Mais au-delà de tout ça, elle est où la justice et l'égalité, comme vous le voyez, dans la société?
Ça vient, disons, de l'image positive que le Canada tend à projeter dans les sociétés latino-américaines, et même le Québec montre aussi,
cette image-là.
Tout à fait, cette image.
Donc, vous êtes en train de nous dire qu'avant d'arriver ici au Québec, vous avez eu cette image-là. Hein?
Oui.
Et vous êtes venu avec cette possibilité de réaliser un rêve, j'imagine, là-dedans.
Mais oui, parce que de plus, il y a toute une campagne, je ne sais pas si votre auditeur, votre auditrice, elles sont au courant, mais il y a toute une campagne qui se développe parmi les différents pays au monde, justement pour attirer l'immigration. Et ce qu'on attire, c'est l'immigration la plus qualifiée. Donc, pour venir, pour avoir la possibilité de venir, il faut être en une très bonne santé, avoir de bonnes qualifications, avoir
un titre
universitaire. Exactement, avoir un bon travail pour pouvoir rejoindre tout l'argent et toutes les économies nécessaires pour s'installer ici. Donc,
pour arriver à la terre, au paradis, là.
Exactement,
Canada.
Parce qu'on dit on va aller au Canada pour travailler, pour avoir le bonheur pour nos enfants.
Oui.
Sauf que quand on arrive ici,
tout
ça. Ça change.
Donc, ça évapore, quoi.
Oui. On se confronte à la réalité et on voit que les choses ne sont pas comme on avait imaginé dans notre pays d'origine.
C'est vrai, mais nous sommes là dans le contexte de la semaine, comme vous le savez, de l'action contre le racisme et tout. Est-ce que vous étiez obligé de... Sentez-vous que vous étiez mis à l'écart, le regard de l'autre.
Mais oui, ça se passe exactement, disons, pour beaucoup d'immigrants qui ont cette particularité d'être racisés ou visibilisés dans la catégorisation des minorités visibles.
Oui, oui.
Parce que des fois, quand on voit quelqu'un qui a la peau blanche, on tend à l'associer à un bon niveau socio-économique.
Oui, meilleur que l'autre, quoi.
Oui. Tandis que nous faisons, disons que dans la construction, nous et eux, il y a tout un ensemble de stéréotypes et d'idées préconçues
oui.
par rapport à l'autre. Donc, ce qui nous, ce qui eux, c'est la bonne question.
Oui, oui.
Quand on vient ici, des fois, ça suffit d'avoir un accent différent pour être mis dans les autres.
Oui, oui.
Ce sont les cartes, immigrants.
Oh, c'est ça, oui.
Exact.
Et pourtant, c'est toute une richesse. Juste avant de revenir avec vous, peut-être je passerai le micro à Madame Abana. Dominique, vous êtes quand même, vous avez suivi des sciences en sciences politiques à l'Université de Montréal.
Oui.
Vous êtes venue ici à l'âge de 14 ans.
Oui.
Quel est votre regard, Madame?
Ok, je dirais peut-être, pas contrairement, mais dans le pays d'où je viens, du Cameroun, on a une réalité un peu différente par rapport aux Occidentaux.
Oui.
Vu qu'on est des anciens pays colonisés.
Tout à fait, oui.
Donc, à quelque part, quand on regarde l'Occident de façon générale, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe,
oui.
ça paraît toujours mieux. Ça paraît toujours,
exactement.
Peut-être pas le paradis, mais ça paraît en tout cas mieux que là où nous sommes. Moi, c'est pas moi qui a fait le choix de venir au Canada vu que j'étais
mineure.
C'est les parents
qui ont.
C'est les parents. Mais la raison pour laquelle justement on avait choisi le Canada par rapport à l'Europe, c'est que justement on se disait que le Canada semble être plus ouvert aux immigrants.
Tout à fait.
Le Canada semble être moins raciste justement. C'est un pays où on a vraiment la potentialité de se développer comme on veut.
Oui.
Bon, c'est vrai qu'à 14 ans, on pourrait dire qu'on n'a pas nécessairement une conscience de la réalité quand on arrive. Mais quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans les écoles, parce que je suis venue, j'ai commencé
exactement.
À étudier, c'était les ghettos qui se formaient à l'intérieur de l'école même.
Oui.
Il n'y avait aucun mélange.
Oui.
Je veux dire, les immigrants restaient entre eux, mais parce que les Québécois de souche restaient entre eux.
Mais est-ce qu'il y avait un effort de la part de l'école, l'établissement, de faire un effort pour essayer de rapprocher ça? Est-ce qu'il y avait des ateliers? Est-ce qu'il y avait
du rapprochement?
Est-ce qu'il y avait des cours? Est-ce qu'il y avait des cours, spécialement pour ça? Ou, parce que, de toute façon, vous êtes en train de le dire, finalement, ça n'a pas réussi. Ça veut dire, ils ont toujours, vous avez quitté l'école, et c'était toujours aussi des écoles.
C'était toujours comme ça.
Oui,
et je dirais que même, il n'y avait pas tant que ça un effort de l'école de faire ça.
Oui.
Il y avait justement beaucoup, je suis venue, j'ai eu la chance d'aller dans un collège privé.
Oui.
Il y avait beaucoup d'activités parascolaires.
Oui.
Mais il n'y a jamais eu d'activité parascolaire pour faire du rapprochement interculturel entre les élèves.
Oui.
Je dis, c'était peut-être justement comme on le disait tantôt. C'est comme si justement, parce qu'il y a cette image que le Canada est un pays très ouvert, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de rapprocher les gens, qu'on s'accepte mutuellement.
Mais ce n'est pas vrai.
Mais ce n'est pas vrai. Parce que justement,
la réalité est complètement différente.
C'est que chacun était de son côté.
Oui. Et ça aide vraiment pas du tout, là.
Ça n'aide pas du tout. Oui. Quand on va à l'université, c'est la même chose.
Oui.
Et je dis à Long, justement, quand on sort, parce que l'université, c'est un peu comme un reflet de ce que la société est.
Tout à fait.
Et quand on ressort de l'université, ça reste comme ça.
Ça va continuer.
Ça va continuer à la longue.
Je donnerai la parole à Nadia, qui était spécialisée en communication et littérature française. Nadia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers ce que vous avez entendu?
En fait, moi, quand j'ai terminé mes études, c'est mon mari qui a décidé de venir s'installer ici.
Ah, c'est le méchant qui a accepté.
Oui, c'était lui, ça disait bien. Puis après, je l'ai vu. À mon arrivée ici, je me disais, waouh, le Québec, c'est le paradis. On va avoir tout ce qu'on n'a pas eu en Algérie et tout ça.
Ah, oui.
Et puis, bon, la première année, je n'ai pas cherché de travail. Je n'ai pas cherché à faire une formation parce que j'étais enceinte.
Ah, okay,
je voulais m'occuper du bébé.
Vous avez occupé d'un nouveau Québécois.
Non, c'est ça.
Vas-y.
Puis, au bout d'une année, je commence à me rendre compte que vraiment il y a le racisme à la société québécoise.
Comment vous l'avez remarqué, vous l'avez observé, vous l'avez vécu, comment?
Au début, ma fille, elle était dans une garderie au milieu familial.
Oui.
Puis après, on m'a appelé pour avoir une place dans un CPE tout proche de chez moi.
Oui.
À mon arrivée, déjà, quand je lui parlais au téléphone, la madame, elle était hésitante, est-ce que je suis une immigrante ou je suis une Québécoise? Elle n'a pas reconnu ma voix. Puis après, à mon arrivée...
Mais je ne comprends pas, est-ce qu'elle vous a posé la question directement?
Non, elle n'a pas osé poser la question directement, mais elle a essayé d'avoir l'information. Mais...
Oui, chercher l'information, indirectement.
Mais moi, je n'ai rien dit, indirectement, oui. À mon arrivée là-bas, quand je présente tous mes papiers, et puis là, elle voit mon extrait de naissance, et puis elle me dit, vous n'êtes pas une Québécoise? Je dis, non, madame, je ne suis pas une Québécoise. Elle était déçue. Je voyais qu'elle était déçue dans ses yeux.
Oui.
Et puis, ça, c'était au mois d'août. Au mois de décembre, ils ont décidé de faire un party de Noël dans du CPE.
Oui.
J'ai assisté. Comme ils disent, les immigrants n'essayent pas de s'intégrer dans notre société. Donc, je me dis, OK, peut-être qu'il y a des immigrants qui n'essayent pas de s'intégrer, mais moi, je vais essayer de m'intégrer dans leur société.
Oui.
J'ai décidé d'y aller.
De participer
au party de Noël.
Oui.
À mon arrivée, j'étais vraiment, vraiment très déçue. Les Québécois, comme elle dit, ils étaient tout seuls.
De
et
côté.
Nous, les Arabes, on était tout seuls.
Oui. Les Arabes, c'est vrai. Hein. Les Arabes, c'est un sérieux problème avec les Arabes. Hein.
Oui,
avant de notre temps, c'était les Noirs. Aujourd'hui, c'est les Arabes.
Oui, c'est surtout avec, les, avec Ben Laden. D'ailleurs, il y a...
Vous n'avez pas de si vous n'êtes pas une famille, membre de famille de Ben Laden, j'imagine.
Non. J'ai rien à voir avec... On n'a rien à voir avec
question,
Ben Laden. On n'a rien à voir avec
Ben Laden. Donc, vous l'avez senti directement comme ça. L'image.
Oui, directement. Oui, on était vraiment rejetés directement. On était dans un coin seul et puis au bout d'une année, ça fait une année que j'ai décidé de faire une formation ici à Québec.
Oui.
Je commençais à suivre une formation, puis j'ai vraiment vécu du racisme.
Oui.
Bon, moi, je suis diplômée en langue et littérature française.
Oui.
Il y avait des filles dans ma classe, elles ne pouvaient même pas parler. Elles ne savaient même pas faire l'accord entre le sujet et le verbe.
Ouais, mais ça, c'est bien.
Elles ont eu leur examen de français. Moi, je n'ai pas mon examen de français.
Pourquoi ?
Mais j'avais un échec, puis après j'ai fait la reprise, elles m'ont donné un échec. La madame, elle était vraiment, c'est une femme très raciste. Et
vous pensez que votre professeur était raciste?
Oui, c'est mon professeur qui m'a donné l'échec.
Mais c'est vrai, parce que vous avez suivi une formation, je pense, d'administration, de secrétaire,
oui.
Qui est un niveau 4-5, et vous êtes spécialisée en littérature française.
Oui, hein, j'ai pas eu mon examen de français.
Vous l'avez pas eu?
J'ai pas eu mon examen de français.
Mais écoutez, on va faire une pause musicale, on va réfléchir, et on va revenir avec vous, mes chères auditrices. Cher auditeur.
Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, c'est n'a pas pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens. Des milliers de graines de joie comme pousse. Ici la haine, on m'a béni des petits gars. Là-bas, on t'enlève tes chaînes. Te donne une vie sans Dieu, t'es dans l'arène. Comme ici, tout petit après 9 mois à peine. On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Non, sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas, trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Que les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in peace way. Just wanna be free in my world. Liberé per libertà. Liberé nella libertà. Disait même oui que la mer l'oubliait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. M'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum. Depuis des années, quittais ce chemin, ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà, vivere nella libertà. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfant qui n'ont pas de limites comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, des fleurs voler caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciels. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Just wanna be free. Just wanna be free. Just wanna be free. Wanna be free. Oh, just wanna.
Voilà donc, rebonjour mes chers auditrices, chers auditeurs. On va continuer notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans la semaine, en pleine semaine, à l'action contre le racisme. Et j'ai avec moi mes invités d'aujourd'hui. J'ai à mon côté Madame Dominique Abana et Madame Maritza Guyane et Nadia. Je reviens toujours avec vous, Madame Maritza. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un effort de la part du gouvernement pour essayer de remédier un petit peu le problème?
Mais disons que dans ces points-là, il y a plein de choses à discuter, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu beaucoup d'avancements dans les 30 dernières années dans toutes les politiques au Canada et au Québec. On ne peut pas nier qu'il y a un effort de s'investir, disons, de la part du gouvernement, sauf que toutes les mesures qui ont été déjà prises, par exemple le programme d'accès à l'égalité et de diverses mesures justement pour accès à l'égalité et pour les minorités racisées, si c'est ou ce qu'on appelle les minorités visibles, ne cause pas l'impact qu'on devrait avoir. On le voit dans la quotidienneté, sur la rue, on le voit, disons, dans toutes les entreprises où les employeurs ont beaucoup de difficultés pour engager des immigrants et des immigrantes. Oui. Et c'est vraiment préoccupant, les statistiques qui montrent la réalité que vivent les femmes immigrantes.
Oui. Madame Abana, vous avez, on parle un petit peu de l'égalité de l'emploi et de formation. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous disiez pour ça?
Ben, j'avais dit que justement, Marissa disait tantôt qu'on construit les réalités. On construit le E et le non. Et des programmes comme ça accentuent cette division, en fait. C'est-à-dire que les immigrants sont tellement différents, justement, des Québécois, des souches.
On est obligé de les créer.
On est obligé de créer des programmes spéciaux. Un peu, justement, comme, en tout cas, c'est souvent un exemple qu'on utilise, qui sont tellement...
On les marginalise plus.
Ils sont plus marginalisés, mais c'est comme s'ils sont tellement inférieurs, qu'ils n'ont tellement pas les compétences, qu'on est obligé de les accompagner pas à pas pour les amener au niveau des Québécois de souche. Je veux dire, des programmes comme ça, si le programme investissait peut-être plus, créer des programmes au contraire pour faire... Parce qu'on dit rapprochement interculturel, des fois on a l'impression que ce n'est pas une action assez forte parce que c'est juste du rapprochement interculturel.
Tout à fait,
mais s'il y avait des programmes comme ça où justement les deux cultures pouvaient se rencontrer et où les Québécois de souche, des futurs employés, apprendraient à connaître des immigrants, mais réellement pas en tant qu'immigrants, en tant qu'êtres humains tout simplement qui a grandi dans une autre culture, je crois que ça aiderait plus que des programmes où on accompagne toujours les gens.
Oui.
Mais dans un monde idéal, oui, on n'aurait pas besoin de ça. Mais comme on n'est pas dans un monde idéal, je dis c'est le minimum. C'est le minimum. Au moins, disons que ça permet concrètement de donner de l'emploi à des gens qui n'auraient jamais eu de l'emploi sans ça. Je dis, il y a des programmes aussi que... On entend souvent dire qu'ils sont un peu comme s'ils étaient réservés aux immigrants, comme les programmes PRIME, les subventions salariales qu'emploie Québec. Donc ça, c'est pas juste pour les immigrants, c'est pour tout le monde.
Pour tout le monde, oui.
Mais... Dans le coin où je travaille, particulièrement à Saint-Laurent, où il y a comme la majorité, 66% d'immigrants, c'est souvent les immigrants qui en bénéficient.
Oui.
Et puis là aussi, c'est rendu comme si c'était un handicap parce que les employés disent, on vous donne tellement, vous êtes tellement que pourquoi moi, je ferais même un effort pour vous engager.
Exactement.
Donc des fois, ce sont des mesures à double tranchant et c'est peut-être pas ça la solution idéale.
Maritza, j'aimerais bien, vous êtes dans le centre d'encadrement pour les jeunes femmes immigrants et je pense que vous avez remarqué, vous avez vécu le témoignage de d'autres personnes. Pouvez-vous nous dire deux mots? On parle d'autres personnes maintenant.
Oui, mais disons que ça nous arrive quotidiennement d'entendre des témoignages en nommant des choses qui sont inconcevables à cette époque-là.
Oui.
Des femmes qui sont voilées et qui sont niées à être embauchées, même si elles ont toutes les capacités et toutes les qualifications.
Les compétences, oui.
Exactement. Nous avons des femmes avec...
Ils sont rejetées, c'est ça ce que j'ai entendu.
Exact.
Exclues.
Et des fois, c'est directement.
On
dit à la personne, on ne peut pas vous embaucher parce que vous portez un voile.
Et elle est obligée de rentrer chez elle et se fermer entre les quatre murs et reste là, c'est
Mais
ça?
Mais oui, et vous pouvez imaginer tout l'isolement et tous les rejets que la personne ressent après ça parce qu'on essaye de chercher un emploi et si on reçoit toujours des réponses comme ça, c'est pas évident. Donc, nous avons des témoignages à tous les jours comme ça et des choses qui arrivent aussi sur la rue au quotidien qui sont vraiment inconcevables. est inadmissible.
Mais maintenant, Madame Abana, pensez-vous qu'une semaine par année, hein, une semaine par 4-5 jours par année, peut régler contre action, contre, soi-disant, et c'est une bonne initiation de la part des citoyens quand même, hein, ce n'est pas le gouvernement, c'est les citoyens, c'est des bénévoles, c'est des organisateurs, des organismes. Mm-hmm. Pensez-vous qu'une semaine comme ça, une fois par année, peut régler un problème colossal comme celui-là?
Je dirais que non, parce que je crois qu'en fait, ce sont des actions durant toute l'année qui peuvent vraiment avoir un impact.
Voilà, oui.
Mais que, encore là, comme je disais, c'est mieux que rien, parce qu'au moins, ça permet de mettre la lumière sur le problème.
Oui.
Ça permet de le faire ressortir dans une société où on dit ça n'existe pas.
Oui.
C'est important, mais c'est quel ça peut... Les actions qu'on fait sont plus des actions symboliques, on en parle beaucoup, on va faire des activités un peu artistiques et culturelles, mais
oui.
c'est clair que c'est pas ça qui règle le problème.
Oui.
C'est sûr.
Mais je retourne peut-être à Nadia. Nadia, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez dit tantôt comme quoi vous n'arrivez pas à s'adapter à cette société d'accueil parce que vous sentez un rejet par rapport à l'autre?
Oui.
Est-ce que vous continuez, vous gardez un espoir pour continuer à se battre, si vous voulez, pour arriver à avoir une place dans cette société-là?
Oui, c'est sûr. On va toujours essayer de se battre pour avoir notre place ici.
Oui. Et pour vivre avec l'autre, hein, et pour connaître l'autre.
Oui.
Hein.
Dans notre part, on essaie de connaître l'autre. C'est l'autre qui nous rejette.
Voilà, c'est ça la difficulté. Ça. Mais vous êtes ouvert pour l'autre, pour le connaître et pour vivre avec et partager.
Du moment qu'on a décidé de venir s'installer au Québec, ça veut dire qu'on est ouvert aux autres personnes.
Maritza, ça vous fait mal, comme quoi que l'autre vous rejette et que vous essayez de s'adapter, vous trouvez pas l'espace, on vous laisse pas l'espace, on vous réduit l'espace comme ça, et on va vous étouffer dans votre propre espace, quoi.
Oui, je dirais que dans un sens, oui, ça fait très mal.
Très mal,
mais d'un autre sens, je dois aussi reconnaître qu'il y a aussi l'ouverture. Ma meilleure amie ici est québécoise. J'ai une autre amie très, très proche qui est aussi québécoise. Et elles sont des femmes extraordinaires.
Ouais.
Et il y a plein de gens comme ça sur la rue.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on doit attirer l'attention sur le racisme, la discrimination, que ça existe. Mais on doit aussi parler de toute l'ouverture de beaucoup de gens qui sont dans la capacité de voir la richesse de l'immigration et la diversité.
Ouais. Madame Abana, vous m'avez dit que vous arrivez ici à l'âge de 14 ans. Moi, j'ai un enfant de 14 ans. Hein.
Mm-hmm.
Et je me souviens, la première fois quand il est venu, il avait 10 ans et il rentre. Il est né ici au Québec. Hein, sa mère, elle est européenne et moi, je suis un Sud africain. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'elle est... il vient me voir, il avait 10 ans et pour me dire, papa, ça m'a frappé. Il me dit, papa, d'où je viens? Et lui, il est né ici au Québec, il connaît pas d'autres lieux, il a jamais voyagé, et là il me surprend avec cette... Moi je savais plus quoi lui dire, hein. Il dit, papa, d'où je viens? Moi je dis quoi? D'où j'attendais pas la réponse. Pour cette génération-là, cette deuxième génération, cette troisième génération...
J'allais dire justement, c'est très difficile parce que c'est ça, on construit des réalités.
Oui.
Je dis même... On rencontre tellement cette problématique-là dans notre organisme. J'ai même des enfants d'immigrants qui sont nés ici, qui ne connaissent que le Québec, qui adoptent les valeurs québécoises. J'ai même pour eux, ils ont de la difficulté à se définir une identité en tant que Québécois. Et pas parce que c'est de leur fait à eux, mais parce que la société leur rejette toujours à la face que vous êtes des immigrants.
Oui.
Je dis, c'est comme difficile, même pour les parents. Je vais dire, vous êtes là depuis 25 ans et on a des gens qui sont là depuis des générations.
Oui.
Et on répète constamment à chaque fois que tu es un immigrant. Tu ne seras jamais un Québécois de souche, tu es un immigrant.
Oui. Méritza, est-ce que vous avez un message à transmettre aujourd'hui? Je ne dirais pas aux victimes, je dirais...
Mais l'unique chose qui me reste est
pour les deux, hein, pour les deux.
Pour mes enfants, disons que le discours qu'ils aiment le plus, c'est celui de Martin Luther King.
Oui.
Donc, nous avons toujours un rêve de vivre ensemble, sans préjugés, sans discrimination.
Oui.
C'est seulement ça.
Voilà,
c'est le rêve pour nos
enfants. C'est très bien dit. Madame, avez-vous un message à transmettre aujourd'hui à la population?
J'allais dire, en fait, qu'on a parlé tantôt de victimes. La victimisation est une identité qu'on peut accepter ou qu'on peut rejeter.
Oui.
On peut choisir de dire, malgré le regard que l'autre peut être sur nous, je dis, ça n'affecte pas qui nous sommes et ça n'affecte pas nos compétences, et que les autres d'autres le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, on va quand même le montrer, montrer qui nous sommes.
Oui.
Je dis avec une main d'ouverture parce que le but, c'est de vivre ensemble aussi.
Nadia, pour vous,
moi, justement, à dire, c'est que je demande à la société québécoise et ainsi qu'au gouvernement de nous donner notre chance.
Ah, c'est gentil de dire ça. Écoutez, voilà, c'est tout ce qui nous reste de notre temps, malheureusement, aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier mes invités. Je remercie Dominique Abana, Madame Dominique Abana, excusez-moi, et Madame Maritza Guyane, et Nadia, qui conserve son nom de famille. Donc, je remercie les trois d'avoir accepté notre invitation. Et d'ici, je salue au nom de toute... les citoyens, madame, là son nom est un petit peu difficile pour moi, mais c'est Régine Allende, Tsomombo Congo, c'est ça?
C'est ça.
Elle est directrice et fondatrice du Centre d'encadrement pour les jeunes femmes d'immigrantes. Merci à tous les organisateurs de la semaine d'action contre le racisme. Merci à notre technicienne de son, madame Mario Longuet. Merci à Radio Centre-Ville, 102.3 FM, de nous avoir cédé les ondes. Pardon, afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, mes chers auditrices, chers auditeurs, passez une excellente fin de semaine et à vendredi prochain, à la même heure.
Raison pour changer votre matelas. L'usure du temps, la fatigue et le désalignement des ressorts, dommages causés par l'humidité, parasites, problèmes d'allergie, sommeil non réparateur, douleurs au lever. Pour une ou plusieurs de ces raisons, afin de mieux dormir et pour votre santé, Lidor va vous aider. Pour votre nouveau matelas, c'est Lidor, 6552 boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Nuit Blanche, l'émission qui bouge et qui dérange. Tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin. Là où le hip-hop vit à Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Oh, oh. Avec Dice B, Cabernet Baby. Yeah.
Les productions des Brouillards et Casnada présentent le Grand Cénébal de Montréal. Venez fêter l'indépendance du Sénégal et célébrer l'arrivée du printemps avec le Sénégalo-Québécois le plus acclamé en ville, l'humoriste Boukar Diouf au meilleur de sa forme en spectacle musical. L'énergique musicien sénégalais Zal Sek en concert live électrisant avec plusieurs artistes surprises et dégustations de mets sénégalais au club Lambi 4465 boulevard Saint-Laurent, coin Mont-Royal. Le samedi 2 avril à 20h30. Admission 20$. Billets disponibles au 514-376-9449. Les productions Débrouillards, c'est l'art dans toute sa diversité culturelle.
Depuis 35 ans, nous représentons la diversité. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.